Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour madame et monsieur et merci de nous écouter sur Canal Académie. Aujourd'hui, Yves-Marie Berset de l'Académie des inscriptions et belles lettres est venu jusqu'à notre studio pour nous présenter Pierre Janin, magistrat et diplomate français, né après 1540, mort en 1623, dit le président Janin. Dans tous les ouvrages évoquant la France et l'Europe des années de la fin du XVIe et du début du XVIIe, on lit constamment au détour d'une page « Le président Janin calma les esprits », conseilla la pondération, tenta de réconcilier, négocia officieusement et officiellement. C'est un personnage qui est devenu emblématique de la négociation et il a écrit un livre qui s'appelle « Les négociations » à la fin de sa vie. Et ce livre fut longtemps considéré comme le bréviaire du diplomate. On dit même que Richelieu, quand il était à Avignon au début de sa carrière, le lisait avec grande attention et le considérait comme un prodigieux négociateur politique qui force le respect et la considération. Yves-Marie Berset, qui est cet homme politique au-dessus de la mêlée et quelle mêlée? Et pourquoi a-t-il été si honoré, si renommé et puis maintenant tellement moins connu?
Alors je crois que sa carrière, sa fortune, ou plutôt son infortune historique, peut s'expliquer dans la mesure où il ne correspond pas à la vision classique stéréotypée de la chronique politique de la France. En effet, le président Pierre Janin a joué des rôles primordiaux, notamment dans l'administration des finances du royaume pendant au moins une décennie. Il a été président pendant deux règnes. On verra tenu des rôles essentiels dans les négociations diplomatiques, extérieures et intérieures. Or, effectivement, il échappe même à l'attention du public cultivé et curieux d'histoire. Alors je crois que l'explication vient de ce qu'il a été mêlé, enfin il a joué ses rôles primordiaux justement, dans deux épisodes que l'historiographie classiquement rejette ou ridiculise, c'est-à-dire la Ligue et puis la régence de Marie de Médicis, deux moments qui sont supposés être des moments de décadence politique ou de cause perdue. Alors je crois qu'on peut justement relever ce défi et montrer à quel point justement cette vulgate est trompeuse et sortir des lieux communs et montrer, non pas une réhabilitation, ça n'a pas d'intérêt, mais le rôle essentiel de ce personnage apparemment de second rayon.
Oui, de second rayon, mais on va voir quand même qu'il va aussi servir Henri IV.
Apparemment, j'ai dit apparemment, voilà. Oui. Puisque être surintendant des finances, c'est tout de même pas une charge mineure. Alors, il est né après 1540 à Autun, où il appartenait à une famille qui, depuis au moins trois générations, était de riches marchands tanneurs, parvenus à un certain niveau d'aisance, puisque son père, qui s'appelait Pierre Janin lui aussi, échevin de la ville d'Autun et qu'il avait assez de prétentions sociales pour envoyer son fils faire des études à une faculté de droit voisine à Bourges, où il a pu suivre, pense-t-on, les enseignements du célèbre juriste Cujas. En tout cas, le jeune Pierre Janin va exercer le métier d'avocat, de plaidant au Parlement de Bourgogne, et même en 1572, il a donc 30 ans, il devient chargé des intérêts juridiques particuliers des États provinciaux, c'est-à-dire de l'instance permanente qui gère les intérêts politiques et les droits provinciaux d'administration de la fiscalité locale.
C'est ça qui va lui servir de tremplin ?
Certainement. Enfin, on pourra dire aussi que s'il a mérité cette attention, c'était qu'il en avait les qualités professionnelles. Et il a sans doute là gagné assez d'argent. En tout cas, en 1573, il fait un mariage qui est supposé lui amener beaucoup plus de moyens. Il épouse une dame, une demoiselle Anne Guénaud, qui est la fille d'un riche médecin de Semur en Auxois. Et après, quelques années plus tard, on le voit acheter des offices de conseiller, puis de président au Parlement de Bourgogne, au Parlement de Dijon, exactement en 1580. Et c'est de là que lui vient cet avant-nom classique qu'on va répéter.
Président Jeannin.
De président Jeannin.
Pour toujours, maintenant.
Pour toujours le président. Pas président n'importe où, mais président au Parlement de Bourgogne. Et là, il vient à rencontrer le gouverneur de la province, le duc de Mayenne, et sa carrière politique, avec les vicissitudes dramatiques de l'époque, de la fin des guerres de religion, de la fin des 30 années de guerres de religion, vont donc être liés au destin, au rôle politique du duc de Mayenne.
Qui est un Guise, qui est le frère du Balafré.
Qui est le frère du duc de Guise. Je ne vais pas reprendre les événements du règne de Henri III, mais vous savez que Henri III, n'ayant pas d'enfant, se résigne en 1585 à envisager que la succession du trône puisse aller à un cousin dont la parenté remonte à la fin du XIIIe siècle.
Oui, mais qui est quand même son beau-frère, Navarre.
Mais ce qui ne lui donne pas un droit au trône, c'est la branche des Bourbons détachée à la fin du XIIIe siècle, qui est ce personnage, se trouve être le chef du parti protestant qui conduit la guerre à l'intérieur du royaume. Par conséquent, une immense fraction des sujets, vraiment immense, c'est-à-dire presque tous les catholiques, vont être révulsés à cette idée. Ce qui aboutit, on le sait, à l'expulsion de Henri III de Paris en 1588, ensuite à la réunion que l'on pense, qu'on en espérait conciliante des États de Blois convoqués par Henri III, États généraux réunis à Blois à la fin de 1588, mais qui se révèle être un piège, enfin le théâtre de l'organisation d'un coup de majesté où Henri III joue le tout pour le tout et, loin d'essayer de discuter avec le parti catholique, fait assassiner son chef, le duc de Guise, et son frère, le cardinal de Guise. Alors, ces événements provoquent une réaction d'horreur dans la plupart des villes du royaume et renforcent donc la conviction de la Sainte Union, qu'on appelle communément la Ligue. À ce moment-là, après la mort du duc de Guise, son frère, le duc de Mayenne, devient donc lieutenant général du royaume au nom de la Sainte Union, c'est-à-dire de la Ligue. Et Pierre Jeannin est son secrétaire. Et il va jouer, bien sûr, un rôle éminent, parce que on le sait par les travaux qui ont porté sur les correspondances du temps, qu'il était au fond une sorte de secrétaire général. C'est anachronique comme terme, mais de la Sainte Union. Mais c'est lui qui assumait la correspondance entre les villes et les provinces du parti de la Sainte Union. Et ce rôle éminent était reconnu même par ses adversaires, par les royaux, puisqu'on le désignait communément comme le chef du conseil des ennemis rebelles et que Henri IV lui-même le considérait comme la cervelle sur laquelle reposaient toutes les affaires de la Ligue. Donc voilà ce qu'est Pierre Jeannin en 1589-90. À ce moment-là, en 90-91, la victoire de Henri IV et rien moins que certaines. Ce qui est l'obstacle à la légitimité de la Ligue, c'est qu'elle vient en contradiction de la loi salique, plus ou moins légendaire, mais enfin, qui depuis le XIVe siècle est donnée comme un élément des lois fondamentales du royaume, qui exclut les femmes non seulement de l'accession au trône, mais de la transmission des droits au trône. Or, on aurait pu envisager que l'oncle de Henri de Navarre, le vieux cardinal de Bourbon, puisse succéder, dans la mesure où le prince de Navarre aurait été disqualifié par sa religion, mais le vieux cardinal de Bourbon est mort en 1590. Au début de 1591, Henri IV remporte des victoires en rase campagne, à Arques, à Ivry. Mais, en même temps, c'est significatif, il échoue devant les sièges des grandes villes. Il échoue deux fois devant Paris et au moins une fois devant Rouen. Il n'arrive pas parce qu'au fond, il a sur le terrain l'appui de la cavalerie, de la noblesse, et il a les villes contre lui. Voilà le schéma stratégique. niveau de Pierre Jeannin, qui est une tête politique, en 1591, la cause de la Ligue n'est pas perdue. Il va à Madrid, il passe par Lyon, qui est une ville ligueuse. Là, il passe par Turin et Gênes et se rend en Espagne pour demander des renforts à la couronne d'Espagne. Et là, il prend connaissance du projet espagnol d'avancer les droits supposés de la princesse Isabelle Claire Eugénie, qui est la nièce de Henri III, mais qui, bien sûr, selon le droit français, ne peut pas,
n'a pas
le droit au trône, bien qu'elle soit très proche.
Oui.
Et là, Jeannin, qui lui est un juriste français, comprend que la Ligue, là, en quelque sorte, a perdu politiquement, mais elle n'a pas perdu sur le terrain. Il y a des cartes à jouer. Les cartes à jouer, c'est d'essayer de trouver une légitimation d'un prince inconnu qui serait désigné par une assemblée des États généraux qui vont être réunis par Mayenne à Paris en 1593. Ou bien, si on n'y parvient pas, et on sait qu'effectivement, ces États généraux n'y parviendront pas du fait justement de la loi, l'obstacle de la loi salique, être en position de force pour amener Henri IV à se convertir au catholicisme, puisque c'est ça l'enjeu. Et au fond, Jeannin réussira. On présente souvent le cours des événements, si vous voulez, comme s'il était écrit de toute éternité et comme si la cause d'Henri IV devait triompher. Mais en 1592-93...
Rien n'est moins sûr.
Rien n'est moins sûr. Et Jeannin, donc, joue un jeu dangereux. Alors on le voit à ce moment-là, il est sans cesse en mouvement entre Dijon, Soissons, Bruxelles. La Ligue conserve la Bourgogne, la Picardie, la Champagne, et donc une assise territoriale considérable. Il se trouve, par exemple, en 1594, dans la place de Laon, qui est assiégée par Henri IV, et là, on rapporte une anecdote qui est typique, peut-être, du courage et de la ténacité de Jeannin. Il négocie depuis le haut des remparts avec Henri IV, lui-même, et Henri IV lui promet que si la ville est prise, il sera pendu. Et Jeannin lui répond que si la ville est prise, lui, il sera certainement mort et que par conséquent, on peut faire de son corps ce qu'on veut. Alors, en tout cas, cette fière réplique confirme en tout cas que Henri IV savait qu'il avait affaire là à
un personnage de qualité.
On sait que le territoire de la Ligue va se restreindre et que Jeannin, il passe l'année 1595 généralement en Bourgogne. En 1596, il est un des négociateurs ou le principal négociateur du traité de Folembray qui amène le ralliement du duc de Mayenne à Henri IV, qui recolle donc les principaux chefs de la Ligue, le dernier lieutenant général du royaume, se soumettent à Henri IV. Et Mayenne a une liste des personnages qu'il confie à Henri IV pour les préserver de toute répression, non seulement les préserver, mais les avancer dans les dignités, et en tête est Pierre Jeannin. Et effectivement, je crois que c'est tout à fait intéressant de le comprendre, en 1596, les deux principaux négociateurs de la Ligue, Villeroy et Jeannin, deviennent conseillers d'État au service de Henri IV. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une défaite de la Ligue, mais d'une sorte, à la volonté de, c'est la subtilité, l'intelligence de Henri IV, de faire une véritable réconciliation.
Ce n'est pas une cohabitation,
c'est une réconciliation. Il y a aussi l'idée de la part d'Henri IV de représenter l'ensemble des opinions, bien sûr, des sensibilités du royaume, et d'avoir un contrepoids dans ses conseils à ses amis protestants ou aux tiers partis modérés, enfin des catholiques qui s'étaient déjà ralliés à lui, et d'avoir des conseillers qui facilitent les discussions avec l'Espagne, avec laquelle il faut bien traiter un jour ou l'autre, avec la Lorraine, avec la Savoie, et surtout avec le pape Clément VIII, dans la mesure où le pape a déjà accepté la conversion de reconnu la sincérité de la conversion de Henri IV, et il a reconnu ses droits au trône, mais il reste encore à obtenir du pape une autorisation qui n'est rien moins qu'évidente, c'est la dissolution de son mariage avec Marguerite de Navarre. Par conséquent, toute la diplomatie française et employer là désormais, Henri IV étant reconnu roi définitivement, il faut aussi assurer la descendance. Et si Henri IV venait à mourir de maladie ou d'une cause de mort violente, on reviendrait dans l'incertitude et dans le chaos des guerres civiles. Il s'agit donc de négocier avec le pape Clément VIII cette annulation.
Et oui, c'est avec Jeannin, Marguerite de Valois. Enfin.
Oui, c'est le cardinal d'Ossa à Rome va en jeter les éléments, mais c'est Jeannin qui, en 1599 et 1600, va vérifier tous les éléments de validité au regard du droit français. Cette même année 1600, c'est Villeroy et Jeannin qui vont traiter avec Charles-Emmanuel de Savoie le traité qui va apporter à la France le Bresse et le Bugey.
Pays de Gex aussi.
Et le Pays de Gex et le Valromé, mais qui aussi amène Henri IV, sur les conseils de Jeannin, à concéder au duc de Savoie, la place de Saluces, auquel les Français renoncent, et surtout un passage à travers le pays de Gex vers la Franche-Comté par le pont de Beauvoisin, qui est juste en aval de Genève, et qui amorce ensuite vers la Valserine et puis la Franche-Comté, ce qu'on appelle la route des Flandres, ce qui me permet aux Espagnols d'envoyer continuellement des troupes débarquées à Gênes, remontant à travers le Piémont, la Savoie et la Franche-Comté.
Oui, c'est une zone de passage.
C'est une zone de passage, c'est une zone stratégique essentielle pour les Espagnols qui continuent la guerre dans les Pays-Bas. Et ça, bien sûr, c'est une concession, bien sûr, capitale de la part des Français. On voit là, c'est Jeannin qui se trouve toujours dans ces situations, on dira, décisives. On va le voir encore. Alors, on a déjà abordé, vous voyez, la deuxième étape.
Oui, quand il devient conseiller d'Henri IV.
Plus illustre, peut-être, de quand il est conseiller d'Henri IV. On comprend qu'il a des missions spécifiques, que sa conviction catholique et d'ancien ligueur le mettent à même de remplir plus efficacement, avec plus de possibilités de conviction vis-à-vis des interlocuteurs espagnol ou bourguignon, franc-comtois. Et on disait bourguignon, vous savez, pour représenter ce qu'on dirait aujourd'hui être les Wallons, les Liégeois ou les franc-comtois, on disait grosso modo les bourguignons. Et alors il va trouver régulièrement un interlocuteur qui est une sorte de complice, un peu plus vieux que lui, qui s'appelle Jean Richardot, qui est le secrétaire des Pays-Bas espagnols, enfin avec un peu d'anachronisme pour le faire comprendre, on dira que c'est le premier ministre belge, si vous voulez. Ce Jean Richardot est un franc-comtois, c'est un juriste, francophone bien sûr, et ami de longue date de Jeannin, et ils se trouvent, eux, à discuter ensemble de tous les problèmes qui confrontent la France et les intérêts espagnols. Alors, en 1606, la guerre se poursuit dans les Pays-Bas, enfin entre les territoires de l'actuelle Belgique et les Provinces-Unies de Hollande et de Zélande, et la lassitude, l'argent et les morts comptent, pèsent énormément. Les deux parties sont résolues à négocier. Et c'est la France, le roi de France, qui va servir d'intermédiaire. Et c'est Jeannin qui, en 1606, est envoyé. Il va mettre 3 années, de 1606 à 1609, à essayer de réconcilier, et parviendra à imposer une trêve de 12 ans, conclue en 1609, et qui fonde un élan de prospérité fabuleux, tant au nord, c'est à ce moment-là que les grandes compagnies de commerce hollandaises vont naître et fleurir et conquérir l'Indonésie. Et c'est à ce moment-là que, de l'autre côté, les ports d'Anvers, de Dunkerque vont aussi avoir
prendre une importance
capitale.
Mais alors la France, grâce à Jeannin, la voix de la France grâce à Jeannin est bien représentée et ça a permis d'avoir des liens pendant tout le XVIIe, entre la France et les Provinces-Unies, ce qui deviendra les Provinces-Unies.
Voilà. Et on dit, l'anecdote veut que dans toutes les grandes familles des Provinces-Unies hollandaises, il y a eu souvent sur un buffet ou sur une armoire une gravure avec le portrait de Jeannin, qui était considéré comme une sorte de bienfaiteur. Alors, on peut essayer de comprendre, parce qu'on a, dans son livre, des négociations diplomatiques, qui ont été publiées beaucoup plus tard par un de ses petits-fils, exactement en 1756. On sait comment il a procédé de saisir les intérêts de ses interlocuteurs, de feindre de les épouser, d'épouser leurs arguments pour ensuite parvenir à les convaincre, lui, de ses propres idées, de ses propres solutions.
On peut dire aussi que c'est la stratégie florentine. On a déjà dit ça. On tourne autour du pot.
Je pense que c'est une sorte de rhétorique juridique qu'on trouve dans les recueils de plaidoyers qui sont publiés en grand nombre à cette époque-là, où il s'agit de déblayer le terrain en envisageant tous les obstacles, toutes les propositions négatives qui pourraient empêcher la conclusion à laquelle on veut parvenir. Alors, il y a un cas où il veut convaincre les députés des Provinces-Unies, c'est-à-dire du Nord, les Hollandais, d'accorder à leurs sujets catholiques, qui sont tout de même assez nombreux, mais qui appartiennent généralement à des catégories populaires qui n'accèdent pas à la représentation politique. Il veut donc les convaincre d'accorder la tolérance du culte catholique. Et il ne va pas plaider cette tolérance au nom de la justice, au nom de la légitimité,
de Dieu,
au nom du nombre que représentent les catholiques. Il va leur dire que s'ils interdisent le culte catholique, ils s'exposent à des troubles qu'ils n'auraient pas en cas, au contraire, de tolérance. C'est-à-dire que c'est l'intérêt des Provinces-Unies d'accorder cette faveur, non pas parce que c'est juste, mais parce que c'est plus sûr pour eux. Et un autre argument beaucoup plus fort, c'est que les Provinces-Unies ayant désormais acquis une souveraineté en droit international, elles ne sont pas du tout obligées à accorder une tolérance particulière à leurs sujets catholiques. Si elles le font, ce sera une mesure de grâce qui prouve leur droit régalien, leur droit de souveraineté, et que c'est donc une confirmation de leur souveraineté que d'être capable d'accorder une grâce à leurs sujets catholiques. Vous voyez, c'est extrêmement habile.
C'est un peu jésuite, mais c'est très bien.
C'est très fort, voilà.
Parce que ça permet de toucher des vérités.
C'est en ce sens que c'est en recueil de négociations, va séduire, vous l'avez dit tout à l'heure, Richelieu. En 1617, il est en disgrâce, il est dans le comtat d'Avignon, enclave pontificale, et il s'ennuie, il est discrédité, et ma foi, donc, il prétend que les négociations du président Jeannin sont une sorte de consolation et de leçon, la meilleure leçon que puisse avoir un homme d'État. Ensuite, eh bien, on parviendrait, si vous voulez, à la troisième partie avec la régence de Marie de Médicis.
Oui, parce qu'à l'assassinat d'Henri IV, il est là, il prend les choses en main.
Oui, alors Henri IV avait recommandé à Marie de Médicis de recueillir toujours les avis de Jeannin. Et alors, cette anecdote est racontée par Talmand des Réaux. Alors que Jeannin revenait des Pays-Bas, d'Anvers, le roi, ayant appris qu'il devait arriver ce jour-là, commanda qu'on l'avertît lorsque Jeannin arriverait. Ce qu'ayant été fait, le roi se leva et, prenant la reine par la main, il alla recevoir le président Jeannin à la porte de la salle. Et, l'ayant embrassé avec des tendresses inconcevables, il se tourna du côté de la reine et lui dit « Voyez-vous, madame, ce bonhomme, c'est un des plus hommes de bien de mon royaume, le plus affectionné à mon service et le plus capable de servir l'État. Et s'il arrive, que Dieu dispose de moi, je vous prie de vous reposer sur sa fidélité et sur la passion que je sais qu'il a pour les biens de mes peuples. Il est croyable que cette recommandation demeura gravée au fond du cœur de cette princesse, puisque la mort de ce grand roi étant arrivée, elle a très soigneusement suivi le conseil qu'il lui donna s'étant entièrement confié en sa conduite pendant toute sa régence, lui donnant l'absolu gouvernement des finances et de l'État. Alors, effectivement, Sully est soupçonné d'avoir reçu trop de faveurs de Henri IV et dès la fin de l'année 1610, en janvier 1611, il préfère se démettre, se retirer dans ses domaines de Poitou et c'est Jeannin qui va hériter de la responsabilité des finances. Sully croyait en fait que l'avait sous-estimé Jeannin et croyait que lui, Sully, reviendrait en charge bientôt. En fait,
je crois même que Sully était, il y avait un petit peu de jalousie auprès de...
Certainement,
oui.
Puisque...
Sully et Jeannin avaient une petite rivalité pour servir Henri IV.
Voilà, ce dont Henri IV jouait tout à fait sciemment. D'ailleurs, c'est une sorte de tradition politique et on pourrait trouver des exemples sous le règne de Louis XIV, ce jeu de balance où le souverain cherche à faire opposer à l'intérieur de son propre conseil, Colbert et Louvois, mettons, et pour garder lui-même, le dernier moment, la décision qui l'emportera. Alors voilà, on va voir Jeannin se préoccuper, bien sûr, de la fiscalité, mais rétrospectivement, son gouvernement des finances correspond à une période de stabilité des prélèvements. Non pas qu'il soit incapable de réforme ou d'ambition pour l'État, mais parce que là, dans les années 1610, on traverse une période de paix dans l'ensemble de l'Europe. En Angleterre, en Allemagne, en France, partout. Il faut aller en Moscovie ou en Suède pour trouver des guerres à ce moment-là. Donc, il y a un décollage commercial et l'intensification des échanges et des courants de commerce fait que, sans qu'on modifie les taux de prélèvement, les impôts sur la consommation, sur la circulation des marchandises, vont donc rapporter plus. Donc, Jeannin, comme d'autres politiques à d'autres moments, bénéficie, comme on dirait, d'une conjoncture favorable. Et alors, non pas qu'il soit indifférent, si vous voulez, à des réformes possibles, il a pris tout un tas de mesures, justement, sur le commerce océanique, sur les manufactures de produits de luxe comme soieries, orfèvreries, qui sont déjà une sorte de tradition d'excellence dans le royaume de France. Donc, on pourra dire qu'il est avisé. Et alors, quelque chose qui confirme en tout cas son honnêteté et puis le caractère irréprochable donc de sa gestion, c'est qu'on est dans une période de trouble dans la Régence.
Oui, c'est pour ça, vous disiez qu'il y avait de l'argent, mais il y avait quand même toujours des complots nobiliaires, anti-nobiliaires, des conjurations.
Voilà, des conjurations. Donc, on est une période d'effervescence, d'instabilité politique virtuelle, et il y a un très grand nombre de pamphlets qui sont publiés à Paris ou même ailleurs, entre 1612 et 1620 environ, et... Or, aucun de ces centaines de textes polémiques, burlesques, satiriques, ne vise Jeannin. Alors, je crois que c'est une sorte d'épreuve négative que le surintendant des finances ne soit pas attaqué par ces flots de polémiques. C'est sans doute une preuve de son honnêteté.
Oui, c'est même incroyable. Parce que souvent, il y a des surintendants qui, après tout, n'étaient pas forcément tout à fait trop méchants et qui étaient de toute façon, avec l'esprit français, brocardés.
Voilà. Alors, il était brocardé d'une certaine manière, mais plaisamment, dans la mesure où Marie de Médicis avait conservé un certain nombre de ministres de son époux, défunt, de Henri IV, et que c'était donc Villeroy qui s'occupait des affaires étrangères, Jeannin des finances et le chancelier Brûlart de Sillery de la justice ou d'administration interne. Ces personnages étaient sexagénaires ou septuagénaires. Ils étaient habillés comme la mode du règne précédent. Ils avaient des fraises, ils avaient des barbes blanches, alors qu'à l'époque, il fallait avoir, les jeunes gens avaient des moustaches longues, cirées, relevées. Donc, avoir des grandes barbes blanches, on les appelait le trio des barbons. Donc, personne, bien sûr, à la cour, n'aurait envisagé, si vous voulez, de leur nuire directement. Mais enfin, ils n'avaient certainement pas une grande popularité dans la jeunesse.
Mais ça, c'est la loi du genre.
C'est la loi du genre. Ils sont restés dans l'histoire sous le nom de Barbon. Une historiette encore empruntée au folklore qui entoure Henri IV. C'est une historiette qui vient de Talmant des Réaux. Henri IV aurait voulu soumettre ses trois principaux ministres à une sorte de comédie de test sur leur caractère. Et il aurait dit, il aurait envisagé une poutre du château de Fontainebleau. Il dit que cette poutre, lui, ne lui paraissait pas très solide. Et qu'est-ce qu'il fallait en penser ? Villeroy regarde même pas la poutre et dit « Bon, mais il suffit de la remplacer ». Sully regarde la poutre et dit « Mais elle est parfaitement solide, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent, elle durera plus que vous et moi, sire ». Jeannin est interrogé et il dit « Apparemment, je n'y vois pas de défaut, mais il vaudrait mieux demander pour plus de précautions l'avis d'un homme de l'art ». Alors voilà, l'anecdote, bien sûr, tout est dit. Villeroy est vaniteux. Sully est mesquin et Jeannin révèle sa prudence et sa subtilité.
Nous allons maintenant, pour conclure, parler de la fortune, parce qu'il ne s'est pas enrichi, mais il a quand même construit sur la colline de Chaillot un château.
Voilà, alors il a sans doute bénéficié d'un enrichissement considérable au moment de son ralliement en 1596. Ensuite, après, il y a des profits qui lui sont venus du succès de ses négociations avec les Provinces Unies en 1609, de sa charge de surintendant des finances sans doute. Mais alors, il a marié sa fille, Charlotte, avec Pierre de Castille, qui appartenait à une famille de marchands merciers parisiens, enrichis dans la banque, et qui lui apportait... La fille avait une dot de 30 000 livres. On peut penser qu'il laissait... Il est mort donc en 1723, qu'à ce moment-là, il laissait moins d'un million de livres. Alors, pour comparer, Sully a laissé 5 millions. Donc, Jeannin aurait été plus modeste. Il avait cependant eu un goût, pour, vous l'avez dit, pour les bâtiments en Bourgogne, le château de Montjeu, celui de Dracy-Saint-Loup, et puis à Paris, où en 1613, il avait acheté un terrain sur la pente de Chaillot, du bourg de Chaillot, en aval de Paris, terrain qui avait appartenu, où Catherine de Médicis avait envisagé les rudiments d'une résidence de bord de rivière, et que vers 1617-18, Jeannin fait transformer en un véritable château d'apparence, on pourrait dire palatiale, dans la mesure où, utilisant la pente, le château arrive sur le bord de la Seine et le logis communique avec le rivage par un escalier extérieur à double volée. Et on en a une gravure d'Israël Silvestre de 20 ou 30 années plus tard. On peut imaginer, ce n'est pas du tout certain, mais que les dessins avaient été faits par Jacques Lemercier, qui avait travaillé pour Jeannin en Bourgogne et qui allait travailler pour Richelieu.
Oui, puisque c'est la Sorbonne, entre autres.
La Sorbonne, le Palais Royal.
Et la ville de Richelieu.
La ville de Richelieu. Alors, Lemercier, là, était au début de sa carrière. Il est tout à fait vraisemblable qu'il ait donné des dessins à Jeannin. Alors, ce château devait se trouver, à ce moment, il n'y reste rien, l'ouest des jardins du Trocadéro, on peut penser.
Et c'est à la Révolution qu'il a été détruit
À ce moment-là, sous l'Empire, Napoléon avait envisagé, sur la rive, d'y faire édifier un château pour le roi de Rome. Après, dans les années 1820-1830, on peut penser que les espaces-là sont plus ou moins en mauvais état, qu'on les utilise pour des fins industrielles. Il y a une tannerie, peut-être un retour à la famille Jeannin, ou une raffinerie de sucre. Et puis, il n'en reste rien après, là, au moment où on construit le palais du Trocadéro.
Le premier palais du Trocadéro.
Le premier palais du Trocadéro, oui. Aujourd'hui, je crois que l'emplacement, c'est des jardins.
Oui, donc de Jeannin, il reste le château de Montjeu.
À côté, un peu au nord d'Autun, oui.
Entouré de forêts et d'un grand domaine.
D'un très grand domaine. C'est là qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie, puisque dans les années les plus difficiles de la fin de la Ligue, 94-95, il est changé ses résidences tantôt à Soissons, tantôt à Montjeu. Et c'était ensuite ce qui restait le noyau de sa famille. Alors, il y a peut-être un dernier détail à dire, c'est que ses filles ayant épousé donc le financier Pierre de Castille, qui devient à son tour surintendant des finances, il y a 8 enfants qui sont issus du mariage de Charlotte et de Pierre de Castille. Et l'une de ses filles va épouser en 1651, je crois, en seconde noces, Nicolas Fouquet.
Nicolas Fouquet qui va lui aussi être un surintendant des finances, mais ça va se terminer moins bien.
Oui.
Parce que voilà, Louis XIV va faire son coup de majesté contre lui.
Les surintendants des finances ne finissent pas toujours bien.
Eh bien, merci beaucoup. Vous nous avez présenté un grand serviteur de l'État qui est mort dans son lit, tranquillement, et avec tous les honneurs dus à son rang. Je crois que Louis XIII était très touché aussi par ce personnage qui servait un peu de grand-père de substitution à ce pauvre jeune roi, un peu parfois.
Alors on peut voir le tombeau du président Jeannin et de son épouse, qui était morte un an avant lui, dans la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, où ils sont représentés, grandeur nature, en orant, agenouillés, avec un costume qui
avec
était
sa fraise
certainement sa fraise démodée déjà.
Merci Yves-Marie Berset.